Le Graal, la lumière divine, la mission sacrée. Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Picasso, s'il aurait les cheveux, c'est certain qu'aujourd'hui il porterait un chignon comme des femmes.
C'est ici mon palais, César. Tous les appartements y sont donc à ma disposition.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémentine.
Et bonjour
Jean-Luc.
Bonjour Stéphane.
David,
bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour à vous et bonjour aussi à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre globe-trotteur de l'histoire. Bonjour Gavin Clémentine.
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque mais qui cependant ont un point commun. Aujourd'hui.
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux.
Oui, oui, Pierre, ça y est, c'est ouvert. Voilà. Et nos personnages n'ont plus qu'à entrer. On réunit des personnages à qui on a donné des noms d'oiseaux. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par le peintre du goût français qui a passé une grande partie de sa vie en Italie, Nicolas Poussin. À l'occasion d'une exposition qui lui est consacrée, je vous raconte cet artiste qui s'est vu affublé de quelques noms d'oiseaux. Fallait oser. Puis, lui aussi a osé. Je vous raconte le dramaturge au nom d'oiseau, Pierre Corneille, ou le parcours hors norme d'un poète passé maître dans l'art de la tragédie. Ce qui n'a pas plu à tout le monde non plus, vous verrez. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc Lemoine qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un drôle d'oiseau lui aussi. Patrick de son prénom.
Oui, Patrick Loiseau, connu pour être le mari de Dave depuis tant d'années, mais connu aussi pour être un oiseau qui vole ma parole.
Ma parole, aujourd'hui je vole. J'en reviens pas encore, mais je décolle.
Allez, vous avez l'air de découvrir, Clémentine.
Je ne connais pas cette...
Ah, vous ne connaissez pas
Patrick. Ah, c'est un personnage très, très,
très
intéressant.
Très sympathique. Ouais. Oui,
et,
Patrick.
Et très brillant, en plus.
Oui, en plus, il écrit de très belles chansons. Aussi, ils finiront bien par voler de leurs propres ailes, ces oiseaux-là. Mais en attendant, ils sont là, et dans la cage du studio, et c'est très bien comme ça. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire et des grands de ce monde aussi, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors, Clémentine... De qui nous parlez-vous aujourd'hui?
Bah écoutez, j'ai suivi votre exemple, Stéphane, et comme en ce moment même au musée de Bretagne à Rennes se tient l'exposition celtique, eh bien cela m'a donné l'idée de vous emmener dans la forêt de Brocéliande, entre chênes séculaires et pommiers magiques, à la recherche d'un enchanteur qui porte lui aussi un nom d'oiseau, figurez-vous, c'est Merlin. Vous savez que le Merlin est un faucon, et le Merlin, eh oui, un faucon, oui, ah, oui, ça, oui. D'accord,
il y a très bien. Bien vrai,
bon, que... écoutez, c'est aussi ça vient aussi de Merle, ce nom. Donc voilà, oui. un drôle de Librius, Merlin. Nous en parlerons tout à l'heure.
Très bien. Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent les siennes. Aujourd'hui, David Castel-Lopez, on parle de...
De l'ultra-trail. Hein, vous savez ce que c'est que le trail? Le trail, c'est de faire, en gros, de courir en faisant de la randonnée en même temps. Et bien, l'ultra-trail, c'est ça en beaucoup plus. Ça fait fureur. Et je veux dire, depuis quand les gens ont eu cette idée un peu étonnante, quoi.
Très bien. Les origines, c'est dans toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre,
mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
Et oui, mes aïeux, quelle époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'au XVIIe siècle. On parle découverte avec vous, Gavin, Clément et Ruiz. Et quelle découverte!
Ouais, c'est une autre chanson de Pierre Perret, hein, c'est le Zizi. C'est le festival des phallus au Japon.
Ah, il y a un festival des phallus.
Exactement.
Ah, je sais, j'y ai participé.
Présomptueux.
Oui. Avec un accessible.
Mais c'est très courant. C'est une fête pour fêter la fertilité.
D'accord.
On appelle les dieux fertiles pour venir.
Et on montre son
alors non.
Comme dirait Jack Lang, on sort avec son instrument, non?
Non, pas vraiment. On en sort des très grands. Grands. Mais pas le sien.
Pas le sien. Ah, ça me rassure.
On peut sortir le phallus de copain. Parce que vous dites pas le sien, comment ça se passe?
Vous allez voir, je vais tout vous dire.
Parfait. Mes aïeux. Quelle époque, vous avez vu, tout le monde était moustillé du coup. Mais à quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h45. Et puis le quiz Burn to Be Alive aussi. Un grand moment de détente et de n'importe quoi. Un quiz qui est surtout un prétexte pour se divertir.
Vous avez tout dit, Stéphane?
Oui, cette fois, oui. Enfin non, je voulais dire, j'étais très heureux de passer cet après-midi avec vous.
Qu'est-ce qui nous arrive, Stéphane? Je crois qu'entre nous, c'est un grand roman d'amitié qui s'élance.
Oui. Comme un oiseau, on connaît la chanson. Mais tout de suite, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Il est considéré comme le grand maître de l'école classique française. La richesse de ses compositions et la beauté de ses expressions l'ont fait surnommer le peintre des gens d'esprit. Je vous raconte maintenant un artiste à qui quelques confrères jaloux lui ont prêté des noms d'oiseaux, un comble vu son nom, Nicolas Poussin. Difficile de se figurer à quoi ressemblait le jardin des Tuileries avant que le nôtre n'y dessine les parterres symétriques que l'on connaît aujourd'hui. C'était pendant la première moitié du XVIIe siècle un grand jardin en bord de Seine constitué de plusieurs micro-domaines distincts les uns des autres. Au cœur de l'un d'entre eux, la Garenne ou jardin Gilles Renard, existait un superbe pavillon entouré d'arbres et de fleurs rares. En cette fin de septembre 1642, alors que l'automne s'installe sur la capitale, ce petit paradis s'est transformé en enfer pour son occupant. Depuis de longs mois qu'il y vit, le peintre Nicolas Poussin, 48 ans, les cheveux longs et noirs, le nez légèrement aquilin, n'a guère eu le temps de profiter des attraits de ce lieu de délices où il est gracieusement logé. Accablé de labeur, celui qui a été nommé premier peintre ordinaire l'année précédente et à qui le roi a confié la direction générale de tous les ouvrages de peinture et d'ornement de ses propriétés, est arrivé à saturation. Certes, c'est à contre-cœur qu'il avait quitté Rome et son épouse pour accepter cet immense honneur de la part de son pays natal, mais jamais il n'aurait cru l'exercice à ce point pénible. Une charge de travail énorme, des délais difficilement tenables et surtout, les cabales de certains de ses confrères, jaloux de son succès. Simon Vouette, surtout, qu'il a pourtant bien connu durant ses premières années dans la capitale italienne, n'a depuis quelque temps qu'une idée en tête, le décrédibiliser. Est-ce parce qu'avant sa venue à Paris, ce grand peintre jouissait sans partage de la faveur de la cour et du public ? Bien sûr. Pourquoi, sinon lui reprocher ouvertement de peindre un Christ ressemblant davantage, je cite, « un Jupiter tonnant plutôt qu'au Dieu tout miséricordieux » et qualifier son coloris d'opaque et son trait de sec et manquant de sentiments ? Non mais quelle offense ! Et ce n'était que la première. Ses projets pour la Grande Galerie du Louvre ont été tout aussi décriés par Vouette et ses amis. C'en est trop. Poussin n'est pas homme à supporter les intrigues de la cour et tous les noms d'oiseaux qu'on lui affuble derrière son dos. Il a donc pris sa décision. Il rentrera à Rome retrouver sa bien-aimée, au moins pour un temps. Monsieur de Noyers, surintendant des bâtiments du roi, le lui a volontiers accordé, à condition bien sûr qu'il revienne avant le printemps prochain pour finir les divers chantiers qu'il a commencés. Nicolas Poussin ne le sait pas encore, mais la mort imminente du cardinal de Richelieu quelques semaines plus tard, puis celle de Louis XIII en mai 1643, vont bientôt le délivrer de son engagement. N'est-ce pas tant mieux d'ailleurs ? Car la santé de Nicolas Poussin, presque cinquantenaire, se détériore. La maladie qu'il a contractée, voilà 15 ans probablement, la syphilis, le ronge à petit feu. Et sa main, depuis quelque temps, s'est mise à trembler. Pour peindre, il sera plus à l'aise chez lui, dans le confort de sa demeure romaine. Mais pas question d'arrêter, non d'ailleurs, sa production restera soutenue dans les 23 années qui lui restent à vivre. Nicolas Poussin va encore produire plusieurs chefs-d'œuvre. Sa seconde série des sacrements, par exemple, ainsi que plusieurs tableaux narrant des épisodes de la vie de Moïse, l'un de ses sujets de prédilection. Mais il ne se voile pas la face. Sa période la plus faste, de créativité la plus intense, celle de ses plus grands chefs-d'œuvre, est derrière lui. Elle date d'avance de ses jours éprouvants à Paris, lors des 16 années qu'il a passées à Rome, sa ville de cœur. Nicolas Poussin, normand d'origine, a rêvé d'Italie toute sa jeunesse. L'Italie, terre de Raphaël, qu'il admire plus que tout autre. À 30 ans, après avoir tenté à plusieurs reprises de s'y installer, il y est finalement parvenu, suivant son ami le cavalier marin, le grand poète italien dont il a fait la connaissance à Paris. Ses débuts dans la ville éternelle n'ont pas été faciles, mais après 2 années de misère, 2 années de travail, Poussin y a finalement déployé ses ailes et gagné à la force du pinceau ses galons de peintre très en vue. Les sujets mythologiques qu'il peint, à contenu parfois sensuel, voire érotique, sont très remarqués. Ses nymphes nues, ses Vénus endormies, ses toiles comme Écho et Narcisse, la nourriture de Bacchus ou encore Mars et Vénus, tableau explicite s'il en est, l'amour, le plaisir. Poussin écrira bien plus tard dans une lettre à un ami que pour lui le but de l'art, sa fin, n'est autre que la délectation. Mais ce qui signe vraiment son style, ce n'est pas tant le sujet que la manière de le traiter. Alors qu'en Italie, le style baroque a cours au XVIIe siècle avec sa flamboyance, sa démesure, sa désordonnance même, Nicolas Poussin, lui, prône la retenue, la mesure, la symétrie, la raison et la primauté du dessin sur la couleur, et non le contraire. Et ces caractéristiques, ce classicisme à la française dont il deviendra le représentant, fait mouche même à Rome, où il décroche quelques commandes prestigieuses. La mort de Germanicus, notamment pour le cardinal Barberini, tableau qui reçoit un accueil triomphal. Le pape Urbain VIII lui fait même l'honneur d'une commande pour la basilique Saint-Pierre, le martyr de Saint-Érasme. Mais ce sont avec les commandes de riches mécènes et amateurs d'art qu'il va véritablement s'épanouir. La liberté qu'elle lui offre vont lui permettre de déployer toute l'étendue de son génie et de peindre bientôt ses toiles les plus admirées, des toiles dont on connaît tous le nom. Si je vous dis l'enlèvement des Sabines, avez-vous en tête ce chef-d'œuvre exposé au Louvre, peint vers 1637 ? Le massacre des Sabins, leurs femmes qui sont enlevées, une scène d'une grande violence représentée par Poussin comme un instant arrêté, où tout paraît figé et étrangement calme. On y contemple toute la maîtrise technique du peintre. C'est également à cette période, 2 ou 3 ans plus tard, qu'il peint les Bergers d'Arcadie, peut-être son œuvre la plus célèbre. Un tableau magnétique qui fascine par les mystères ésotériques qui l'entourent depuis toujours. Que signifie l'inscription sur la dalle ? Qui est la femme ? Pourquoi l'ombre du doigt est-elle mal orientée ? Que de mystères ! Comme ceux d'ailleurs qui entourent encore la jeunesse de son auteur. Car si je ne vous ai pas encore parlé de sa vie avant son départ à Rome, à 30 ans, c'est que l'on sait bien peu de choses sur cette période. Même sa date de naissance est incertaine. Juin 1594, peut-être, aux Andelys, en tout cas, sur les bords de Seine. Longtemps, la question est demeurée sans réponse. Nicolas Poussin était-il déjà un peintre accompli avant son arrivée à Rome ? Le verdict est tombé récemment, sous la forme de toiles de jeunesse perdues et retrouvées. La mort de la Vierge, peinte en 1623 pour le retable de Notre-Dame de Paris, et un autre tableau plus précoce encore, la mort de Chionnet, peint à Lyon en 1622. À l'âge de 28 ans. Le talent exceptionnel du peintre s'y exprime déjà. Et comment se l'est-il forgé, ce talent, d'ailleurs ? On lui connaît des passages rapides dans les ateliers de 2 peintres parisiens, Georges Lallemand et Ferdinand Hel. Quelques fréquentations férues d'art, mais pas beaucoup plus. On le suppose, dès lors, doté d'un don naturel extraordinaire pour le dessin et la peinture. Un talent qui ne lui épargne pas quelques difficultés financières dans sa jeunesse, dont on trouve quelques traces. Mais un talent qui lui vaut aussi quelques commandes déjà prestigieuses dans la vingtaine. La décoration des appartements de Catherine de Médicis, au palais du Luxembourg notamment. Un talent enfin qui finira par éclater au grand jour à Rome, puis via ce prisme dans le monde entier. C'est indubitablement à Rome qu'a pris son envol le plus grand représentant du classicisme. À Rome que s'est épanoui celui qui représente la quintessence picturale de ce qu'on appellera le goût français. Paradoxal, n'est-ce pas ?
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Nicolas Poussin avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir le conservateur en chef du département des peintures au musée du Louvre. Bonjour Nicolas Milovanovic.
Bonjour Stéphane.
Nicolas Milovanovic, vous assurez le commissariat de l'exposition Poussin et l'amour, actuellement présentée au musée des Beaux-Arts de Lyon. Quelle place le sentiment amoureux prend-il dans son œuvre ? Parce que c'est un aspect assez méconnu de son travail.
Absolument, on essaye de montrer un Poussin inconnu. Les grands génies, vous voyez, on pense tout connaître, et puis on découvre, parce qu'ils sont multiformes, parce qu'ils sont des univers, des mondes, des aspects vraiment pas connus. Et donc cet aspect de Poussin sensuel, même érotique, est vraiment très peu connu, en tout cas en France et en ce moment.
Clémentine ?
Mais du coup, cet aspect-là a-t-il choqué ses contemporains ? Ou alors le truchement de l'évocation de l'Antiquité, ça permettait de montrer des femmes nues, des beaux seins, des belles paires de fesses. Est-ce qu'il a choqué ou est-ce que
non,
c'était
ça,
dans...
C'est une très bonne question, ça a choqué. Ça a choqué, on en a des preuves. Alors déjà, on le savait un peu par les textes. On a un texte très amusant de Loménie de Brienne, qui est un fils de ministre, mais amateur d'art, collectionneur, qui a un Poussin. poussin, mais ce poussin le gêne car il est trop érotique, c'est une Vénus qui écarte un peu les jambes, et donc il finit par se résoudre, lui, un collectionneur, un amateur de poussins, à découper le tableau, vous voyez, pour enlever la partie basse du corps de Vénus, de garder le haut, le rendre plus présent. Donc ça, on le savait, mais ce qu'on découvre en faisant, par exemple, l'exposition, en observant les tableaux, en les restaurant, on découvre toujours beaucoup en restaurant, c'est qu'il y a des lacunes sur certains de ces tableaux érotiques, dans des zones évidemment importantes, par exemple les fesses de Vénus, les fesses des nymphes, on a souvent des lacunes qui ont été restaurées, et qui montrent aussi qu'il y avait vraiment des actes de vandalisme sur ces tableaux-là, donc qui choquaient.
Et qui sont les acheteurs de ces œuvres qui circulent certainement un peu hors des circuits officiels?
Alors, très, très intéressant, c'est dans la Rome des papes, donc la Rome, ville des prêtres, ville aussi des courtisanes, il y avait des grands amateurs qui étaient dans l'entourage papal souvent, mais qui, à côté de leur grande dévotion, on est à l'époque de la contre-réforme, de la réforme catholique, donc grande époque de dévotion, il y avait ce goût pour des choses très licencieuses, mais qu'on cachait un petit peu, voyons, on présentait ça dans des arrière-cabines, caché derrière un rideau qu'on montrait à quelques invités mais choisis. Et ça remonte à la tradition raphaëlesque, donc la redécouverte des ruines antiques. Et donc cet art romain qui lui est ouvertement érotique. Et donc on redécouvre ça dans la Rome des papes.
Je le disais, on a peu d'éléments précis sur la vie de Nicolas Poussin, mais dans quelle mesure ses expériences amoureuses et sensuelles ont-elles pu influencer son œuvre? Est-ce que au fond il retranscrit en peinture les aventures qu'il... Et l'amour qu'il traverse.
Eh oui, on peut le supposer, Stéphane. C'est-à-dire que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une maladie vénérienne qui date de ce moment-là. Hein, on la date, on n'est pas sûr, 1626, deux ans peut-être après son arrivée à Rome. Et donc, il paraît évident que ce qu'il peint, ces nudités extraordinairement provocantes, eh bien, sensuelles, eh bien, il pratique ça aussi. Alors, quelles sont les amoureuses de Poussin? Ça, malheureusement, effectivement, comme vous le dites, on n'a pas la trace. Mais très clairement, effectivement, il cède au plaisir de la chair. C'est un peintre amoureux. Avant d'être un peintre de l'amour.
Nicolas Poussin a bâti sa réputation d'artiste surdoué à Rome, loin des ors de la monarchie française. Pourtant, il a été nommé premier peintre ordinaire par le roi Louis XIII en 1641. Quel était précisément son rôle? Ça voulait dire quoi, au fond, peintre ordinaire du roi? Et pourquoi, lui, a-t-il été choisi alors qu'il avait des jaloux autour de lui?
Alors, c'est une bonne question. C'est-à-dire que c'est la montée en puissance de la monarchie française. C'est Richelieu qui nomme Sublet de Noyers comme surintendant des bâtiments. C'est un peu le ministre de la Culture d'Ancien Régime. Et donc, il faut une politique artistique majeure en France. Et donc, on cherche les plus grands noms. Donc, pas seulement Poussin. On pense, on espère Pierre de Cortone. On espère, on fera... C'est Louis XIV qui, quelques années plus tard, fera venir le Bernin. Est considéré comme le plus grand, et rapidement on se focalise sur Poussin car il est d'origine française, il est d'origine normande, hein, vous l'avez dit, des Andelys, et il va, après avoir renaclé quand même pendant des mois et des mois, il va finir par venir. Et le premier peintre du roi, c'est-à-dire qu'il a la haute main sur tous les chantiers, chantiers de grands décors, chantiers de tapisserie, chantiers de publications imprimées, l'imprimerie royale, donc vraiment il supervise tout.
Quels étaient les thèmes à l'époque? Parce que, évidemment, la monarchie française voulait exister, donc faisait des commandes, passait des commandes à son peintre ordinaire. Quels étaient les thèmes qu'il fallait mettre en valeur sur les toiles?
Alors c'est la gloire de la monarchie française. Par exemple, Poussin doit peindre toute la grande galerie du bord de l'eau du Louvre, hein, la grande galerie actuelle, et le thème qu'il choisit, en lien évidemment avec les commanditaires, c'est-à-dire Sublet de Noyers, c'est l'histoire d'Hercule. Hercule, c'est l'image du roi. Donc c'est vraiment les exploits d'Hercule qui font référence aux exploits nouveaux de Louis XIII à ce moment-là. Et on lui commande, on lui passe aussi des commandes religieuses pour la chapelle du château de Saint-Germain. Voyez. Commande politique, commande officielle et commande religieuse.
C'est la raison pour laquelle, j'ouvre cette parenthèse, on trouve énormément de poussins. On en redécouvre parce qu'ils étaient dans les églises, en quelques-uns, disons.
Les poussins qu'on redécouvre, c'est plus les poussins de la période précédente, c'est-à-dire ceux qu'il a peints, vous voyez, pour ses amateurs romains dans les années 1620, parce que au moment où il est en France en tant que premier peintre, il est astreint à peindre pour le roi, uniquement pour le roi. Donc c'est vraiment très surveillé.
Clémentine.
Mais justement, justement, Stéphane racontait que il a très mal vécu cette période loin de Rome. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est le poids des responsabilités, la charge de travail, ou l'impression que ça, que c'est un frein à sa liberté artistique?
C'est plutôt la dernière hypothèse, c'est-à-dire c'est un peintre philosophe, Poussin, qui a une vision un peu stoïcienne de la vie, c'est-à-dire qu'il faut être spectateur et non acteur. Il veut être un petit peu à l'abri et regarder la bataille, l'agitation autour de lui. Il n'aime pas être à la tête des grands chantiers, etc. Effectivement, quand vous avez ces grandes responsabilités, vous avez des jalousies, vous avez des personnages qui vous diffament, etc. Et donc, il préfère, lui, aller vivre tranquillement dans sa petite maison romaine, à l'écart de toute cette agitation. Et donc, c'est vraiment, il y est allé contraint et forcé, en quelque sorte. Et dès qu'il trouve une occasion, il revient dans sa petite maison à Rome. C'est un choix philosophique.
C'est un genre de Cincinnatus, en fait. Exactement. Il est heureux chez lui et cultiver son jardin.
Nicolas Poussin a laissé un autoportrait exposé au musée du Louvre. Qu'est-ce que vous imaginez, vous, Nicolas, de sa personnalité face à cette toile? Qu'est-ce qu'elle nous raconte?
Ah, elle est fascinante. On a l'impression d'entrevoir l'âme de l'artiste dans cette toile. Il y a d'abord, il se présente en peintre avant tout, hein, donc il y a des tableaux derrière lui. On voit les revers des toiles, donc on est vraiment au sein de l'atelier. Et ensuite, il y a cette toge noire, donc il y a de nouveau cette idée du peintre philosophe. Donc il est peintre et philosophe. On pourrait ajouter poète aussi. Il y a une question poétique avec une bague avec un diamant. Qu'est-ce que le diamant? C'est un symbole d'immortalité, d'éternité. Donc c'est vraiment ce qu'il vise. C'est d'éterniser sa peinture, hein, ce classicisme poussinesque, on peut l'associer à ce désir d'immortalité. Et puis aussi, c'est un tableau d'amitié peint pour un ami proche qui est Chanteloup, qui est un grand amateur et un ami de Poussin.
Dans l'exposition Poussin et l'amour, vous faites la part belle à un aspect méconnu de l'œuvre de Poussin, car il est avant tout considéré comme le maître du classicisme à la française. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce courant artistique, Nicolas?
Le classicisme, il occupe tout le siècle en concurrence avec ce courant qu'on a appelé baroque. Donc le baroque, c'est un courant plein de force, de mouvement, vous voyez, qui cherche à séduire, qui cherche à frapper les yeux. Le classicisme est plus restreint. Il a, ce que j'évoquais à l'instant, un désir de parler au siècle et au siècle, c'est-à-dire à l'immortalité. C'est des compositions extrêmement pensées, médité par Poussin, où chaque objet trouve sa place. Vous voyez, on peut rien déplacer, rien modifier, sans rompre l'équilibre d'ensemble. Donc, vous voyez, c'est des compositions qui acquièrent une poésie un peu intemporelle.
Justement, c'est ce qui influencera d'ailleurs en partie des grands peintres au 19e et même au 20e siècle.
Bien sûr, en fait, tous les grands artistes, les plus grands artistes français se sont confrontés à Poussin, on l'oublie. On pense à Diderot, homme de lettres, amateur d'art, mais des artistes comme Delacroix, c'est assez inattendu, a écrit un petit livre sur Poussin. Des artistes comme Cézanne était presque obsédé par Poussin, il voulait refaire Poussin sur nature. Et puis Picasso, là aussi, peut-être qu'on le sait pas assez, il était lui aussi fasciné par la figure de Poussin. Il a peint plusieurs variations sur Poussin. Et c'est ce qu'on évoque aussi dans l'exposition lyonnaise, car Poussin se prolonge par Picasso pour montrer combien l'art de Poussin a été un moteur de la création artistique jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup, Nicolas Milovanovitch, de nous avoir raconté les passions de Nicolas Poussin. L'exposition Poussin et l'amour est présenté dans ce magnifique musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 5 mars 2023. Il faut courir la voir. Merci beaucoup.
Merci Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz du jour.
Oui, vous voulez savoir de quoi on va parler, j'imagine?
Donnez-nous un indice.
Alors, un indice musical.
C'est chic. Freak out. Le fric.
Presque. Les frics. Je vais vous parler de frics. Et je vous parlerai aussi des Simpsons. Vous connaissez un petit peu le dessin animé?
Oui.
Bah eh bien, ça pourrait vous aider.
J'ai hâte. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kallenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous entraînez dans la forêt mythique de Brocéliande à la rencontre d'un enchanteur qui répond au nom d'oiseau de Merlin.
Oui, en effet. Alors, le Merlin que tout le monde connaît, bien sûr, c'est le personnage de Walt Disney. Donc, c'est un Merlin l'enchanteur avec son chapeau pointu, un gentil vieux monsieur qui veille sur le jeune Arthur, futur roi d'Angleterre et seigneur des chevaliers de la Table Ronde. Mais l'histoire de Merlin remonte bien plus loin que le Moyen-Âge et elle est inspirée d'un personnage qui a réellement existé. Vous saviez ça?
Ah non.
Merlin, si. C'est un seigneur dont le nom apparaît pour la première fois dans l'histoire, lors de la bataille d'Arderid. Ça se passe en 576, donc 6e siècle, bataille entre différentes factions des Bretons du Nord. Et cette bataille est d'une telle violence que le chef de clan, qui s'appelle Myrdin, avec un Y et deux D, Myrdin, ça va devenir Merlin, il devient complètement fou. Il voit le ciel s'entrouvrir et des fantômes se précipiter sur lui, et du coup, il court se réfugier dans la forêt de Celidon. Après quoi, il réapparaît d'un récit à l'autre, parfois sous d'autres noms. Donc, en gros, c'est un personnage assez énigmatique, il vit dans la forêt et il passe son temps à prophétiser. Dans la tradition orale galloise, dont est originaire ce Myrdin qui va donner Merlin, eh bien, le personnage de Merlin naît de la fusion entre ce personnage historique qui a existé et un personnage légendaire. Quand apparaît-il en France ? Il apparaît au tout début du XIIe siècle dans des contes et légendes rapportés d'Angleterre. Et c'est un compagnon de Guillaume le Conquérant qui est allé conquérir l'Angleterre, etc. Donc il a un compagnon qui s'appelle Raoul Ier, seigneur de Gaël, et Raoul Ier il revient en un seul morceau de la conquête de l'Angleterre, il rapporte avec lui quelques récits qu'il a entendus là-bas, et c'est lui qui va transposer cette histoire de l'enchanteur d'Angleterre, Myrdin, le combattant qui part dans la forêt de Paimpont. Parce que la forêt de Paimpont, c'est avant le 19e siècle, elle s'appelait Paimpont, c'est devenu la forêt de Brocéliande. Mais à l'origine, c'est la forêt de Paimpont. Et Merlin devient un personnage essentiel de la littérature et de l'imaginaire médiéval. Et d'ailleurs, dès la fin du 11e siècle, quand on veut partir en week-end, où qu'on va, les amis, on se presse sur les terres du seigneur de Gaël, dans l'espoir secret de croiser au détour d'un chêne l'ombre de Merlin. Et oui, on y croit, et déjà, on va dans cette forêt pour croiser le mage. Merlin est très tôt assimilé à la forêt. Pourquoi ? Parce que dans son apparence même, la France médiévale n'est alors qu'une longue suite d'immenses et épaisses forêts impénétrables que l'imaginaire chrétien associe au mystère. C'est le mystère, qu'il soit bienfaisant, qu'il soit néfaste. La forêt incarne l'inconnu, le lieu où tous les prodiges peuvent se produire. Et Merlin, qui est une sorte de druide divin, y apparaît. C'est un chaman, en somme. Il apparaît sous forme humaine ou animale. Et là, vous me voyez venir avec mes gros sabots, bien sûr, car l'aspect animal le plus courant de Merlin, c'est celui d'un oiseau. Le nom même de Merlin est d'ailleurs proche du mot merle. Et le merle, c'est un volatile dont Merlin tient le caractère persifleur et provocateur. Et dans l'imaginaire celtique, le merle est associé à l'au-delà. Lorsqu'il prend l'apparence d'un merle, Merlin survole les bois, mais c'est un mage très facétieux. Il peut aussi apparaître sous la forme d'un cerf, d'un enfant, d'un vieillard. Donc progressivement, à partir du XVe siècle, Merlin et la forêt ne font plus qu'un. Les armes de la forêt de Brocéliande sont investies d'un pouvoir magique indissociable de l'enchanteur dont ils seront les geôliers jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il est prisonnier de la forêt, Merlin. C'est sa copine, la fée Viviane, qui l'y a fait enfermer. Mais enfermé là-bas, il acquiert toutes sortes de pouvoirs magiques qui sont assez proches de ceux dont étaient dotés les druides dans l'ancienne Gaule. Et le druide, qui est-il ? C'est justement celui qui porte la connaissance du chêne. On a tous en tête des images de druides avec des grandes robes blanches qui montent avec des serpes. Enfin, on a tous vu Astérix Obélix, hein, quand Panoramix va faire sa potion magique, il va dans une forêt de chênes et la forêt des Carnutes, et puis il coupe son gui. Bon, donc l'arbre dans la tradition celtique, bien sûr, est source de vie, il est à l'origine du monde. Alors, avons-nous, ça je pense, j'imagine, je lis dans vos yeux votre question brûlante, avez-vous une petite chance de croiser Merlin sous forme de merle ou de faucon dans la forêt de Brocéliande ? Eh bien, l'artiste François Davin y croit dur comme fer, qui a créé un arbre d'or en 1991 dans la forêt de Brocéliande. Cet arbre, par sa forme, évoque les bois de serre et rappelle le souvenir de Merlin, mais il est aussi situé au cœur du Val sans retour. C'est une partie de la forêt de Brocéliande où, comme par enchantement, il paraît que les boussoles sont incapables d'indiquer le nord. Phénomène dû aux caractéristiques géographiques du lieu ou à la magie de Merlin. Ah, les deux explications, bien sûr, ont leur champion. Et dans la journée, les promeneurs viennent regarder cet arbre en touriste, tandis que la nuit, il y a des petits groupes de druides en herbe qui continuent de perpétuer, lors de cultes secrets, la mémoire de Merlin l'Enchanteur et de sa forêt magique. Pour en savoir plus, et c'est au musée de Bretagne à Rennes, l'exposition celtique.
Merci beaucoup Clémentine. Et pour découvrir d'autres légendes, donc justement, je vous invite à découvrir quelques jours encore l'exposition celtique au musée de Bretagne de Rennes. C'est le moment de l'émission, chers auditeurs, vous le savez, je rends mon tablier, je perds la main au profit de Jean-Luc Lemoine qui va animer le quiz Burn to be Alive.
Clémentine et Stéphane, vous croisez le fer pour savoir qui est le D'Artagnan du savoir historique. C'est parti. Stéphane, je rappelle quand même pour ceux...
Ah non, j'ai gagné deux fois là ces derniers temps.
Vous êtes en sur-régime.
En sur-régime, oui. Là,
Après une série quand même, il faut le rappeler, de 8 victoires consécutives de Clémentine. Au total de... Est-ce que vous voulez le total depuis le début de l'année?
Non, écoutez, tout ça est humiliant.
Non, je vais vous dire, c'est moins catastrophique qu'on pourrait le penser. Pour l'instant, Clémentine a 4 victoires d'avance sur la saison.
Très bien.
Et là, Clémentine se dit, mais comment est-ce possible? Et c'est là où on s'aperçoit qu'elle a beaucoup de mépris pour Stéphane.
C'est qu'elle a perdu la mémoire, c'est ça.
C'est ça, exactement. Alors Stéphane, on va commencer avec des frics. On a déjà évoqué un fric célèbre dans l'émission.
Des frics.
Non, pas des frites.
D'accord.
Vous n'aurez pas de rap de frites aujourd'hui.
C'est pas une... comme c'est des tuches.
C'est ça, c'est des tuches. Là, on va parler de frics. Alors, on a déjà évoqué un fric célèbre dans l'émission. Comprenez ces personnes souffrant d'anomalies physiques et qui malheureusement étaient exhibées dans les foires. Ou heureusement d'ailleurs, car parfois c'était leur seule façon d'exister. On a parlé de l'homme à la tête de lion, vous vous souvenez? Vous connaissez aussi certainement la femme à barbe. Mais connaissez-vous l'américaine Ella Harper, née en 1870? Alors Ella Harper, c'était qui? C'était la femme chameau, la femme loutre ou la femme rhinocéros? Ça fait rêver, hein.
Moi je dirais loutre, elle devait avoir des poils partout.
Heureusement que c'est votre question, Stéphane, ça m'inspire guère.
Là, j'avoue...
Faites confiance à votre instinct, il vous a souvent magnifiquement guidé.
Moi je dirais loutre, mais bon.
La loutre. On part sur la loutre.
Vous avez perdu.
Non, la loutre, c'est un animal trop peu familier, dont on se figure pas vraiment à quoi il ressemble.
Moi, je vois très bien à quoi ressemble une loutre.
Parce que vous avez peut-être des loutres dans votre rivière à Tyrongardais. Moi, je suis pas sûr de savoir à quoi ressemble une loutre. Ça ressemble.
C'est impassable aujourd'hui. Évidemment, en poil synthétique.
Okay. C'est des
d'accord. Évidemment,
j'ai pas ça en stock.
Alors, il y avait un indice dans la réponse, vous avez compris. Oui. Il s'agissait de...
Rhinocéros.
Bah non, mais le cri que vous avez entendu, c'est quoi? Est-ce qu'on pourrait écouter le...
Ah non, ça c'est un chameau.
Ah bravo. Pourquoi on l'appelait la femme chameau?
Elle sentait fort.
Non, c'est pas
non,
ça du tout.
Non, alors est-ce qu'elle avait une bosse?
Non plus.
Est-ce que c'était
elle avait un triple
des bajoux
menton,
moi je dirais
avait...
des bajoux, non. Un peu dans des...
Vous n'y êtes pas.
Elle avait la lèvre, les fendues, là.
La lèvre fendue, eh ben non, c'est pas ça du tout. Elle avait une flexion des genoux inversée.
Ah.
On l'appelait The Camel Girl. Elle était payée $200 par semaine. Elle a commencé à l'âge de 12 ans et a pris sa retraite à 16 ans grâce à l'argent gagné. Elle est morte à 51 ans.
Ah oui.
On va passer une question pour vous, Clémentine. Vous aimez la musique?
Elle adore beaucoup. Ça. Oui.
Alors, Stand By Me, ça vous parle?
Oui.
J'aime bien vous chanter ce titre de Benny King sorti en 1961, mais je vais laisser ma place à une personnalité américaine. Je vous fais des propositions, il va falloir que vous la reconnaissiez. S'agit-il de Mohamed Ali, Barack Obama ou Donald Trump?
And darling, darling, stand by me, oh, stand by me.
Alors, j'éliminerai Barack Obama, il me reste Trump ou...
Mohamed Ali.
Moi, je dirais Mohamed Ali. Je ne sache pas que Donald Trump soit un grand chanteur, mais ça va peut-être être la révélation. Je trouve la voix un petit peu aiguë pour celle que j'imaginerais à Barack Obama. Donc non, je dirais Mohamed Ali.
Allez, on part sur Mohamed Ali.
Vous avez gagné.
Bravo Clémentine.
Bravo Clémentine.
Oui, j'aime la musique. Hein.
C'est ça, Mohamed Ali qui avait un bel organe en plus d'une bonne droite.
C'est bon, hein, c'est une très belle interprétation.
Oui, ça
me très
bien.
Si vous voulez, il n'y a pas la gêne qu'on peut ressentir quand quelqu'un dont ça n'est pas le métier interprète quelque chose et on se joue la 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 la.
Alors Mohamed Ali, il aurait eu 80 ans cette année. Il nous a quittés en 2016.
Ah oui.
Une question pour que Stéphane se refasse la cerise. Mais non, mais ayez confiance en vous.
Il se refasse la cerise.
1936, André Badevant, haut fonctionnaire français, vice-président du Conseil général de Saône-et-Loire, restera dans l'histoire comme ayant une idée géniale. Faire un parking au deuxième étage de la Tour Eiffel. Vrai ou faux ?
Tellement ridicule.
Oui, c'est absurde.
C'est absurde.
Alors, c'est peut-être pour rire, c'était peut-être un projet.
Non, c'est un vrai projet.
Non, non, le problème, voyez-vous, c'est que c'est tellement con que, évidemment, la tentation, c'est de dire ben non. Mais comme ce quiz est pervers, peut-être que c'est ben oui.
Vous commencez à me connaître un petit peu. Hein.
Donc, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr.
Donc, oui, je veux dire oui, parce que j'ai envie de gagner un point.
Vous dites oui ?
Je dis oui.
On vérifie.
Vous avez gagné !
Bravo ! C'était un vrai projet, mais bien sûr, qui n'a jamais abouti. Il avait imaginé de gigantesques rampes de béton qui devaient être construites autour de la tour, un peu comme des bretelles de périph. Elles devaient permettre l'accès à un parking, et puis finalement, non.
Hein, vous imaginez ? Oui,
quelle absurdité ! Oui, oui. Enfin, vraiment.
C'est idiot de laisser son nom dans l'histoire pour une telle billevesée.
Oui, mais en même temps, il a laissé son nom dans l'histoire.
Oui, c'est vrai.
Une question pour Clémentine qui peut emporter ce quiz. À l'âge où Stéphane Bern reluquait ses camarades du lycée Carnot, Paul McCartney, lui, à 16 ans, composait Love Me Do.
Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please.
Beaucoup plus tard, Sir Paul McCartney a accepté de faire une apparition dans les Simpsons. Je vous avais dit qu'on parlerait aujourd'hui du dessin animé. Donc, il a accepté de faire cette apparition à une condition. Que Lisa Simpson, la fille de Homer Simpson, devienne définitivement végétarienne. La promesse a été tenue ou pas ?
Je pense que oui. La proposition a été tenue parce que pour avoir McCartney est une idole absolue dans les Simpsons, ça valait de rendre la fille végétarienne. Et de toute façon, ça n'empêche pas dans des scénarios de la montrer tentée par un hamburger. Donc je pense que oui.
Ok, on vérifie.
Vous avez
perdu.
Ça se tenait. Non, ils ont été un petit peu plus vicieux que ça. Ça n'a pas été tenu. Paul et Linda McCartney ont fait un guest dans les Simpsons à condition que Lisa Simpson devienne définitivement végétarienne. Ce fut chose faite, sauf que Lisa a remangé de la viande au bout de quelques épisodes. Ils n'ont pas tenu leur promesse.
Vous m'en direz tant.
Il va donc falloir vous départager avec une cinquième question. 1942... je trouve qu'on n'a pas fait grand-chose pour les 80 ans du bazooka, vous ne trouvez pas ? Hein ? C'est important. Donc, le bazooka a été inventé par les Américains. D'où vient le mot bazooka ? Plusieurs propositions. D'un dessert russe, d'une arme japonaise ou d'un instrument de jazz ?
Deux ?
Trois.
Trois me dit quelque chose. Trois me dit quelque chose aussi, ouais.
Oui, mais vous ne pouvez pas répondre à la même chose.
Si, on a le droit.
Ouais. Pourquoi pas, on finira à égalité, ça peut se produire.
De toute façon, vous avez dit...
Non, je suis revenu sur mes bazooka comme instrument de musique me dit quelque chose aussi.
Écoutez, je vais demander la VAR. Qui a répondu 3 en premier ? Du côté de la VAR, on me dit que c'est Stéphane qui a dit 3 en premier. Donc
Oui, mais je voudrais bien écouter la bande, là, parce que je pense que j'ai dit 3 aussi avant lui.
Et en attendant d'écouter la VAR pour savoir qui a remporté ce quiz, parce que je sens une espèce de tension dans ce studio.
Oui.
Non, mais alors, c'est un instrument de jazz qui en laiton, inventé par un musicien fantaisiste du nom de Bob Burns en 1920. La forme de cet instrument ressemble effectivement à l'arme anti-char. Bazooka vient de bazou, qui signifie bouche en argot, ou discours de vantardise.
C'est moi qui ai gagné.
Non, on va réécouter la bande. D'un dessert russe, d'une arme japonaise ou d'un instrument de jazz ?
Deux.
Trois.
Trois me dit quelque chose aussi, ouais.
Vous avez dit deux et après vous avez dit trois me dit quelque chose.
Oui, mais j'étais en train de changer d'avis. Oui, j'avais pas encore.
C'est le premier à avoir à dire mes trois.
Oui. Moi je joue plus, j'en ai marre.
Mauvaise foi.
Bravo à vous deux en tout cas.
Merci beaucoup Clémentine. Allez, sans rancune, à demain.
Elle est partie fâchée.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Gavin Clemente Ruiz et nos personnages du jour qui ont un nom d'oiseau. Après Nicolas Poussin, le peintre du goût français qui n'a pas plu à tout le monde, je vous raconte le dramaturge et poète au joli nom d'oiseau, Corneille. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter à votre manière un oiseau plus vivant, même s'il commence à avoir quelques heures de vol.
Oh, ça va lui faire plaisir, ça.
Non, mais il le sait.
Mais
il l'a dit lui-même.
Il l'a dit lui-même, mais en tout cas, il a une magnifique carrière derrière lui, comme on dit. Je vous raconte l'auteur et l'interprète, Patrick Loiseau.
Et comme dirait son mari, bonne fin de carrière.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il est, aux côtés de Molière et de Racine, l'un des plus grands dramaturges français avec ses pièces de théâtre au dilemme cornélien, devenu, après ses comédies, maître dans l'art des tragédies. Malgré son succès, lui non plus n'a pas échappé aux assauts de ses confrères, ni au comble de se voir affublé malgré son patronyme de nom d'oiseau. Je vous raconte maintenant le grand Corneille. Peu de villes sont aussi propices à s'imaginer le passé que Rouen. Que de maisons à pans de bois dans son centre historique. L'une d'entre elles, située 4 rue de la Pie, a vu s'écrire certaines des plus grandes pages de la littérature française au XVIIe siècle. Nous sommes au printemps 1637 et derrière l'une des petites fenêtres de la façade étroite et à colombage de cette petite demeure, un jeune écrivain dramaturge enrage dans son cabinet de travail. Plume à la main, il rédige avec frénésie une réponse à l'injure qui vient de lui être faite. Mais pour qui se prend-il, cet envieux de Georges de Scudéry ? S'attaquer ainsi à son chef-d'œuvre pour déguiser sa jalousie ? Qu'a-t-il osé écrire au sujet de sa pièce ? Ah oui, il est de certaines pièces comme de certains animaux qui de loin semblent des étoiles et qui de près ne sont que des vermisseaux. Et dire qu'il a un jour entretenu avec ce Scudéry des relations cordiales. Il ne vaut finalement pas mieux que son compère Jean Méret, lâche et tout aussi jaloux lui aussi. Ah, il s'est bien gardé de le signer son pamphlet, celui-là. Ce torchon dans lequel il le traite de venteur et ose se moquer de son nom en le qualifiant de Corneille déplumé. Oui, de Corneille, car c'est bien Pierre Corneille qui enrage ainsi dans le cabinet de sa maison d'enfance à Rouen. Depuis quelques mois, il est l'objet de critiques virulentes au sujet de sa dernière pièce, une tragique comédie inspirée d'un héros national espagnol. Le clou qui dépasse attire le marteau, comme on dit, car le Cid, sorti en janvier, est un succès phénoménal. Le premier très grand succès de Pierre Corneille, un triomphe absolu qui l'a rendu célèbre et dont parle tout Paris et la cour. Une pièce qui, de l'avis de tous, surpasse toutes les autres. Enfin, presque de l'avis de tous. Car le Cid, depuis sa sortie en janvier, est au cœur d'une querelle littéraire qui est en train de prendre des proportions inédites. Le cardinal Richelieu, principal ministre du Conseil de Louis XIII, très impliqué par ailleurs dans les affaires culturelles du royaume, l'a su même de très près. On reproche à Corneille la ressemblance de son texte avec celui d'un auteur espagnol, du plagiat en d'autres termes. On lui reproche aussi le fond et la forme. Le manque de bienséance dans certaines scènes ou encore les quelques libertés que Corneille s'arroge vis-à-vis des règles étroites qui régissent le théâtre classique. À la demande de Scudéry, l'Académie française, alors tout juste fondée, va même se voir incitée à trancher cette querelle. Oui ou non, le Cid mérite-t-il le qualificatif de chef-d'œuvre ? Le verdict académique tombera au mois d'octobre. Défavorable, quoique nuancé. Les savants reconnaissant à l'œuvre des irrégularités que masquent néanmoins des grâces peu communes. Le choc sera terrible pour Corneille. Lui qui, depuis le début de sa carrière dramatique, c'est-à-dire depuis ses 23 ans, écrit encore, écrit toujours, à un rythme soutenu, ne composera plus rien pendant près de 3 longues années. Mais ne dit-on pas que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ? Et lorsque Corneille revient sur le devant de la scène à partir de 1640, ce sera pour offrir au public une série de chefs-d'œuvre. Horace d'abord, puis Cinna, Polyeucte, La mort de Pompée et Rodogune. Lui qui avait commencé sa carrière dans le registre de la comédie avec Mélite, sa première pièce, ou encore L'illusion comique, multiplie désormais les tragédies. Un genre qui ne quittera plus, ou presque, et qui va bientôt le faire entrer à l'Académie française en 1647 et faire de lui un auteur immensément populaire pendant plus de 20 ans. Si le public et la cour raffolent de son théâtre, c'est indubitablement pour le génie de son écriture, mais aussi et surtout peut-être à sa conception bien particulière de la tragédie. Car à la différence des tragédies antiques, ces pièces sont optimistes sur la nature humaine. Dans la tragédie cornélienne, c'est la capacité de l'homme à vaincre le destin qui triomphe à la fin. Le drame qui se joue n'est pas l'implacable résultat de la nature humaine, mais la faute de situations difficiles qu'on appellera bientôt dilemme cornélien, que l'homme, dans sa grandeur, parvient à surmonter. Corneille, c'est évident, n'est pas du genre cynique, non. Et qu'est-il d'ailleurs? On sait peu de choses de l'homme en dehors de son œuvre. On peut lire ça et là des références à son caractère de la part de ceux qui l'ont connu, triste et maladroit, fier et susceptible. De certains, on sait ceci. Pierre Corneille est né à Rouen en 1606 et avant de se lancer dans une carrière de dramaturge, il s'est d'abord lancé dans une carrière d'avocat. Cette carrière, plus terre à terre, il l'amène en parallèle de son art. En 1650, d'ailleurs, pendant la Fronde, Corneille exerce un temps la charge de procureur des États de Normandie. L'épisode marque le début d'une période un peu particulière pour lui, où, après l'échec de l'une de ses pièces, Perte à Rite, en 1652, Corneille tire un trait sur le théâtre. Un trait temporaire, heureusement. 7 ans plus tard, à la demande insistante de l'intendant des finances, Nicolas Fouquet, érigé en défenseur des gens de lettres, le dramaturge accepte de se remettre à écrire. Et c'est un temps à nouveau le succès qui l'attend, avec Œdipe notamment, l'incitant même à venir s'installer à Paris avec son frère Thomas, devenu aussi dramaturge à succès. Mais le grand Corneille, désormais la soixantaine, vieillit et la gloire s'essouffle, d'autant qu'entre en scène une nouvelle génération d'auteurs, dont font partie Molière et Racine. Les pièces de ce dernier s'avèrent d'une concurrence redoutable. Sa pièce Andromaque, donnée en 1667, est un succès retentissant, qui donne un souffle nouveau au genre de la tragédie. Corneille peint les hommes comme ils devraient être, Racine comme ils sont, dira le critique littéraire Jean de la Bruyère pour résumer leurs différences. En 1670, le couperet tombe. À 7 jours d'intervalle, Corneille et Racine s'affrontent sur le même thème. À l'hôtel de Bourgogne, Racine donne son Bérénice. Au palais royal, Corneille, son Tite et Bérénice. La version du jeune dramaturge, plus sobre, obtient la faveur du public. On jure alors que Corneille est fini. Puis sans surprise, à 66 ans, l'auteur du Cid écrit sa dernière pièce, Suréna, avant de renoncer définitivement au théâtre. A-t-il passé les 10 années restantes de sa vie dans la misère, comme on a l'habitude de le dire? Eh bien non, ni dans l'indifférence générale d'ailleurs. Après sa mort, Racine lui-même fera à l'Académie française l'éloge magnifique de celui qui deviendra pour la postérité son éternel concurrent.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Corneille, nous sommes avec un historien du théâtre qui le connaît bien. Bonjour Martial Poirson.
Bonjour Stéphane Bern.
Vous êtes professeur en histoire culturelle à l'Université Paris 8. Corneille, je le racontais, avant d'être dramaturge, j'étais avocat. Dans quelle mesure sa profession a-t-elle influencé sa littérature et explique en partie l'originalité de son œuvre?
Absolument, c'est un des faits saillants. Alors le fait d'avoir eu une formation de juriste est relativement courant à l'époque, mais ce qui le singularise dans son œuvre, c'est qu'en devenant dramaturge, il reste un homme de droit. Homme de droit à la fois par son attention au personnage en défaut de loi commune, la veuve. La veuve, c'est cette femme qui n'est plus ni sous l'autorité du père, ni sous l'autorité du mari, et qui donc déploie des possibilités dramaturgiques inédites. Et homme de droit également par sa capacité à faire du dialogue théâtral un véritable exercice de plaidoirie. Il y a chez Corneille véritablement un intérêt pour l'étude de cas, un intérêt pour les circonstances atténuantes, pour tout ce qui permet d'expliquer, de cerner et de tenir un discours sur l'action du héros ou surtout sur l'impossibilité de l'action du héros. Donc il y a une emprise du droit dans le théâtre de Corneille qui est tout à fait singulière.
Et justement, Pierre Corneille s'est illustré par la spécificité de ses héros. Qu'est-ce qui caractérise le héros cornélien et en quoi est-il différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le théâtre à cette époque ?
Alors Corneille reprend à son compte la question de l'impossibilité d'agir, qui est en fait le vieux thème de la tragédie depuis l'Antiquité, mais auquel il donne un sens plus humaniste, puisque l'impossibilité ne vient plus tant des dieux, de la transcendance divine, de la fatalité du destin chez dans l'univers cornélien, que de l'impossibilité du héros lui-même, pris dans les contradictions de sa pensée, pris dans les injonctions contradictoires de sa morale. Il est face à des choix qui sont absolument indécidables et qui font la tragédie de l'homme moderne, d'une certaine façon.
Jean-Luc ?
Marcel Poisson, justement, quels ont été les choix cornéliens auxquels Corneille lui-même s'est confronté au cours de sa vie ?
Alors Corneille est assez loin de ses personnages. C'est un homme qui vient d'une famille bourgeoise de robe, qui est un notable, qui toute sa vie exerce des fonctions relativement estimées. Donc il y a assez peu de moments de déchirement dans sa vie. Peut-être deux choix qui, sans être cornéliens, sont quand même relativement courageux. À la fin des années 50, au moment où la Fronde endeuille l'Europe, au moment où le théâtre politique ne suscite plus la même adhésion du public, Corneille renonce très provisoirement au théâtre pour mieux y revenir de façon triomphale plus tard, avec une doctrine, avec des discours, avec des commentaires de ses œuvres. Donc là, on pourrait parler de l'amorce d'un choix de renoncement à l'écriture qui n'ira pas jusqu'au bout. Et puis surtout, Corneille renonce à la comédie pour se consacrer au genre noble par excellence, à cette forme qui véritablement fera sa gloire, mais on pourrait plutôt parler d'un choix opportuniste que d'un choix réellement cornélien. Mmh. Corneille n'est définitivement pas cornélien.
Je le racontais, Pierre Corneille s'est attiré les foudres de certains théoriciens du théâtre. Est-ce que, d'abord, on peut juger son œuvre transgressive et surtout, quelles règles de la composition dramatique a-t-il déjoué et qui lui a valu cet avis défavorable de l'Académie française ?
Oui, alors Corneille est un dramaturge qui ne cesse de se réinventer, qui est incapable de se plier à un moule formel. Donc il va en permanence jouer sur les marges du genre, et en particulier de la tragédie, genre extrêmement codifié, en multipliant les actions, alors que la préconisation recommande d'avoir une action unique de façon à soutenir l'attention du public, en multipliant les lieux, en multipliant les temporalités. Il est l'inventeur de ce qui sera bien plus tard la possibilité au théâtre de convoquer des scènes simultanées, plusieurs intrigues qui se mélangent, jusqu'à rendre quasiment indécidable la conduite de l'intrigue. Et puis, il déjoue une autre règle, peut-être plus importante encore, en donnant une importance sans précédent aux personnages féminins. Il fait de ces grandes héroïnes, de ces grandes amoureuses, des femmes qui sont capables de parler de leur passion, qui sont capables de parler de l'amour et de l'impossibilité de l'amour. Et donc, il invente un thème qui est considéré comme indécent pour l'époque, celui de la capacité pour la femme de parler de la relation amoureuse.
Le premier grand triomphe de Corneille, je l'ai raconté, c'est évidemment le Cid, joué pour la première fois en 1637. Quelles sont, selon vous, les raisons de ce triomphe ? Le succès était proportionnel à l'entorse faite aux règles du théâtre ?
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, et c'est vraiment le jeu de la plupart des dramaturges de son temps, c'est de jouer le public contre les doctes. C'est-à-dire en disant, voilà, voyez, écoutez la salle, le frémissement de la salle, et essayez de me dire que ce théâtre n'est pas un théâtre qui fonctionne auprès du public, puisque les doctrinaires, à l'époque, s'appuient justement sur les supposés goûts du public pour imposer des codes d'écriture. À partir du moment où une pièce qui ne respecte à peu près aucune de ces règles constitue un succès aussi immense et n'est critiquée et désavouée finalement que par les auteurs concurrents, la censure et les théoriciens du théâtre, alors on a inventé une formule dramatique. Et c'est ça la force de Corneille dans cette pièce où il est question d'un mort qui va faire le fond de l'intrigue mais qui meurt hors scène et donc dont on doit raconter la mort, d'une jeune femme qui va révéler son amour à celui qui a tué son propre père. Voilà, on multiplie les entorses et c'est ça qui plaît à un public qui est finalement rompu à un théâtre relativement conventionnel et assoupi à l'époque. Mmh.
Gavins, du coup, on peut dire qu'il a posé les bases d'un théâtre moderne, et c'est les bases sur lesquelles Racine a capitalisé ensuite. On a tendance souvent à opposer ces deux dramaturges, mais pour la génération qui a suivi celle de Corneille, il était finalement un modèle.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, Racine ne cessera jamais de lui rendre hommage, bien qu'il ait été relativement déloyal, comme avec Molière d'ailleurs, auquel il doit beaucoup également. Donc, le théâtre de Racine est vraiment la continuation du théâtre de Corneille par d'autres moyens, en approfondissant justement ces grands personnages féminins, en approfondissant cette introspection dans les méandres de l'âme humaine, en sécularisant d'une certaine façon la question de la tragédie, même si le religieux reste très présent chez Racine comme chez Corneille avant lui. Mais il y a quand même l'idée selon laquelle l'impossibilité d'agir de l'être humain vient de l'âme humaine elle-même et qu'on peut pas s'en référer à Dieu pour justifier de nos insuffisances. Donc on est vraiment dans une filiation et dans un héritage, même si au plan de la langue, pour le coup, il y a quand même une vraie différence. Racine travaille sur un vocabulaire beaucoup plus réduit, beaucoup plus serré, un phrasé beaucoup plus fluide, beaucoup plus vocalique, mais en tout cas du point de vue à la fois des thèmes et des enjeux politiques et des enjeux esthétiques, on est dans une filiation.
Parmi les héritiers de Corneille, il y a bien sûr Jean-Baptiste Poquelin, le célèbre Molière, et selon une légende qui est la peau dure, le premier aurait participé à l'écriture des pièces du second. C'est une rumeur persistante et régulièrement, c'est comme un serpent de mer qui réapparaît comme parce qu'on disait que Molière pouvait pas tout faire et donc forcément il avait été aidé par Corneille. Qu'en pensez-vous, Martial Poirson?
Oui, alors il y a une part de vérité dans la légende, hein, comme toujours, c'est qu'ils ont effectivement collaboré sur Psyché. Corneille a écrit à peu près 2/3 de la trame qui avait été conçue de bout en bout par Molière. Molière ne pouvant pas en fait honorer la commande du roi dans le temps imparti, donc on a effectivement une pièce qui est écrite à quatre mains, même si Corneille ne l'ajoutera jamais dans la publication de ses œuvres complètes, ce qui est assez intéressant. Et là où la légende se greffe sur la vérité, c'est beaucoup plus tard, en 1919, quand une sorte de dandy mondain, travaillant lui-même sous plusieurs identités littéraires, Loïs va faire la démonstration, selon lui, scientifique, selon laquelle à peu près le tiers de l'œuvre de Molière serait de la plume de Corneille. Alors la légende, elle est belle, puisqu'elle permet effectivement de faire comprendre que Corneille n'aurait pas complètement renoncé à la comédie, aurait continué à s'adonner à un genre qu'il prisait sous couverture de Molière. Enfin voilà, il y a plein d'éléments de cette légende qui sont assez fascinants, mais on sait aujourd'hui que elle est effectivement tout à fait mal fondée, bien qu'elle réapparaisse très régulièrement.
Et elle énerve prodigieusement les spécialistes de Molière qui tout d'un coup s'échauffent le sang. Merci Martial Poirson de nous avoir raconté Pierre Corneille, le père du théâtre moderne français, et surtout d'avoir évoqué avec nous ce point intéressant sur la place des femmes dans le théâtre et les tragédies de Corneille. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Gavin Clemente-Ruiz, on réunit des personnages qui ont des noms d'oiseaux. Après Nicolas Poussin et Corneille, vous nous racontez Jean-Luc Patrick Loiseau.
Ah, ça chante dans le studio. Allez-y Stéphane, faites-vous plaisir.
J'adorais cette chanson, Michel Fugain.
Oui, et ben c'est pas du tout de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. Non, aujourd'hui je vais vous parler de l'oiseau le plus mystérieux de la chanson française, Patrick Loiseau, que l'on considère à tort comme un homme de l'ombre. Car non, Patrick n'est pas toujours derrière Dave. C'est un véritable artiste qui écrit des livres, chante, peint, dessine des pochettes de disques, et bien sûr, l'auteur de tubes inoubliables.
Est-ce par hasard?
En 1970, Patrick a 21 ans et alors qu'il rêve de devenir dessinateur, il est vendeur dans une boutique Yves Saint Laurent. À l'époque, son physique angélique fait des ravages auprès de la clientèle masculine. Patrick est timide et complexé, mais surtout, il a du mal à assumer son homosexualité. Jusqu'au jour où il va se faire draguer avec insistance par une star américaine. Cette star, c'est Anthony Perkins, mondialement connu après le film Psychose d'Alfred Hitchcock. Il tourne un film à Paris. Ils vont vivre une folle passion. Même si je pense qu'à l'époque, Patrick a dû y aller mollo sur les douches.
Anthony Perkins.
Ah oui, eh ben oui, vous saviez pas?
Non.
Ah ben voilà, je suis là pour ça, pour vous apprendre des choses.
Vous saviez ça?
Non,
Gavin.
Pas du tout. Et il s'en est pas caché puisqu'il racontera leur histoire dans un livre, L'homme de passage. C'est quand même bien de travailler chez Saint-Laurent. Hein. S'il avait eu une aventure en travaillant chez Kiabi, il aurait peut-être écrit L'homme qui cherchait un sweat en taille XL. À la fin du tournage, Anthony Perkins retourne aux États-Unis où il se marie et a 2 enfants.
Comment te dire adieu?
Ah oui, lui, quand il te quitte, il fait pas semblant. Hein. Le cœur brisé, Patrick laisse tomber les comédiens américains pour se tourner vers un chanteur hollandais au nom imprononçable. Nous sommes en 1971 dans une boîte de nuit parisienne. Wouter Otto Levenbach, que l'on traduit en français par Dave, doit chanter devant un public qui s'en fout. quand d'un seul coup, ils croisent le regard de Patrick. Ils se trouvent tous les deux très beaux et ils ne vont plus se quitter. Malgré les réticences de Patrick, car Dave aime, dans le désordre, la bière, la viande, le foot et les cigares.
Phénomène.
Vous connaissez toutes les chansons, hein?
Oui.
Un gros bourrin, ce Dave, quand même, hein? C'est alors le début d'une collaboration sentimentale et professionnelle. À partir de maintenant, Dave devra faire une croix sur les matchs de foot et sur les chansons en néerlandais.
Niets gaat zo snel als het geluk dat je vergeet je lief en je leed.
On dira ce qu'on voudra, mais le néerlandais, c'est vraiment la langue de l'amour, vous trouvez pas?
Ça sonne bien.
C'est ça. Désormais, c'est Patrick qui s'occupe des paroles. En 1974, il adapte Sugar Baby Love, qui deviendra Trop Beau. C'est un succès, sauf auprès des installateurs d'alarme. Normal, ça leur rappelle trop le boulot. C'est ensuite avec l'adaptation de Runaway que la carrière de Dave décolle, là où d'autres se sont cassés les dents.
Quand je vois tomber la pluie, je regrette.
Alors écoutez bien, Gavins et Stéphane, après vous, c'est qui chantait cette version?
Dario Moreno, non?
Non, c'est pas Dario Moreno. Ça finit par un O, je vous aide. Oui. C'est quelqu'un qui a fait quelques 45 tours et puis après finalement c'est consacré.
Quand je vois tomber la pluie, je regrette les beaux jours en pluie.
Ah, le frère de Dalida.
C'est Orlando, le frère
Bruno.
De Dalida.
Bruno.
Bruno, exactement. Avec une version un peu plus ramollo, Patrick, lui, vous allez voir, sur le même morceau, il va faire des merveilles. Même beaucoup plus efficace, on est d'accord?
Ah oui.
Et pour trouver l'inspiration, Patrick n'a pas été chercher bien loin. Il a choisi le prénom de sa meilleure amie, Vanina. Oui, si Patrick avait comme best friends une Marie-Gertrude, la carrière de Dave aurait été tout autre. Quand il n'écrit pas pour Dave, Patrick écrit entre autres pour Nicoletta, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Hélène Ségara ou encore Demis Roussos. Ça vous chantez moins, Stéphane?
J'adore Demis Roussos.
Là, en plus, ça, c'est...
C'est-à-dire ce qu'il chante.
Bien sûr. En plus, là, c'était la grande époque de Demis Roussos. Ouais. Celle où il était le plus poilu. Celle où il aurait été pris pour modèle par Bruno Le Maire en période de grand froid.
Oui.
Dans les années 80, Patrick va aussi chanter. Bon, sa chanson la plus connue, on l'a passée un petit peu pendant le début de l'émission, c'est « Ma parole ». Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le titre, c'est pas une chanson écrite par Roger Hanin. Non, c'est pas « Ma parole ». C'est beaucoup plus doux que ça.
« Ma parole, aujourd'hui je vole ». J'en reviens pas encore, mais je...
En fait, c'est sa version italienne. Enfin, c'est sa version d'une chanson italienne de Toto Cutugno, dont il adaptera plusieurs titres. Il en fait une chanson d'amour et de gens qui volent. Et il y fait un joli clin d'œil à son nom.
Parole d'oiseau, j'y croyais pas à moi-même. J'ai réussi quand tu m'as dit je t'aime.
Mais sa chanson la plus dingue en tant qu'interprète, je sais pas si vous vous souvenez de ça, ça restera jamais. Je suis pas junkie.
Il y en a qui marchent au whisky coca. Mais moi je m'éclate au sirop d'orgeat.
J'ai jamais entendu. Jamais entendu.
Ouais, ah bah d'accord, il est pas junkie, mais est-ce que c'était une excuse valable pour écrire cette chanson? Je suis pas sûr. En 1982, Patrick fait la première partie de Dave à l'Olympia, et là, c'est la douche froide. La presse le décrit comme un simili-chanteur et un piètre bellâtre. Super méchant, hein, de le comparer à un bout de faux cuir et juste gratos pour le physique. Patrick et Dave, c'est l'histoire qui roule maintenant depuis 51 ans. Lorsqu'ils s'engueulent, c'est pas pour savoir lequel des deux a oublié de rabattre la lunette des toilettes. Non, eux, c'est pour le boulot. Le deuxième sujet d'engueulade entre eux, c'est les chiens. Ils les adorent et ont même écrit Chienne de vie, sorte de journal intime de leur chienne Chance, qui parle à la première personne. Patrick était fou de cette chienne qui avait été sauvée d'un destin horrible à La Réunion. Patrick l'aimait tellement qu'il s'était fait tatouer Chance mon amour sur un bras. Si c'était fait d'avouer Dave, mon toutou préféré, sur l'autre bras, on aurait pu dire que c'était le tatoueur qui s'était remêlé les pinceaux entre les noms. Mais même pas. Aucun tatouage pour Dave. Peut-être qu'un jour, Patrick le fera pucer. On sait pas. En février 2022, pour fêter leur noce d'or, le couple a sorti un album best-of. Que des tubes et toutes les chansons de Patrick.
Il y en a qui marchent au whisky coca. Mais moi, je m'éclate au sirop d'orgeat.
Par contre, si vous voulez vous le faire dédicacer, vous avez plutôt intérêt à ressembler à un épagnol breton.
Merci beaucoup, Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages à qui on a donné des noms d'oiseaux pour retrouver deux garçons qui ne sont pas des perdreaux de l'année. David Cassé-Lopez, vous racontez les origines de l'Ultra Trail.
Exactement, l'Ultra Trail, sorte de randonnée en courant. Extrême. Voilà.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on part à la découverte avec vous, Gavin Clemente-Ruiz, et on remonte au XVIIe siècle, à l'époque où l'on célébrait déjà au Japon, près de Tokyo, une grande cérémonie populaire des phallus, n'est-ce pas ?
Exactement, Stéphane. Des phallus en bois, des phallus en fer, des phallus tout roses aussi. Une célébration, alors, on ne peut plus sérieuse, qui honore le sexe masculin et la fertilité. Alors, ça se passe donc au Japon, c'est pas très, très surprenant, et plus précisément dans la ville de Kawasaki, on est à 20 km au sud de Tokyo. Chaque année, en fait, depuis 1977, se déroule là une fête très particulière, le festival des pénis de fer, Kanamara Matsuri en japonais. C'est une grande célébration shintoïste à l'origine qui existait déjà entre le 17e et le 19e siècle.
Mais à quoi sert donc ce festival des phallus de fer et quand a-t-il lieu ?
Eh bien, Stéphane, cette fête populaire ou célébration Matsuri en japonais, qui est un peu plus sérieuse, on rappelle, a lieu le premier dimanche d'avril. On célèbre en fait ce jour-là l'arrivée du printemps et donc la fertilité qui revient au moment où l'on plante le riz en fait. Tout se passe comme à l'origine dans le temple shintoïste de Kanayama. Il y a un homme qui s'avance en kimono liturgique, ça s'appelle le Kanushi. Il est vers 10h du matin, il a un sceptre entre ses mains, il va vers l'autel du sanctuaire, il commence des incantations, il brûle des ex-voto en guise d'offrande et ça c'est pour la partie officielle, sérieuse. Habituellement, personne ne peut y assister ces dernières années avec le confinement et tout a été fait sur YouTube pour y assister virtuellement. Ça reste un cérémoniel de purification très codifié depuis le XVIIe siècle et c'est la procession qui suit cette cérémonie qui est devenue une cérémonie un peu plus festive.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par festive ? Ça a l'air intéressant, ça.
C'est là que ça va devenir un peu cocasse. Eh bien, il y a entre 50 000 et 60 000 personnes qui viennent faire la fête à Kawasaki tous les ans au printemps pour fêter ce retour. Mais c'est une façon assez originale de le faire. En fait, alors, on sort des palanquins qui sortent du sanctuaire avec trois statues gigantesques de près d'un mètre vingt, quand même, et des statues qui passent pas inaperçues parce que...
Des statues gigantesques de 1m20 ?
Oui, mais attendez, vous allez voir à quoi ressemblent ces statues. D'accord. C'est là que ça devient intéressant.
12 centimètres qui deviennent...
C'est le miracle de la multiplication des phallus. Sur l'un des palanquins, il y a un phallus de fer, Kanamara en japonais, et sur un autre, il y a un phallus en bois, et sur un autre palanquin, c'est un phallus rose, qui sont ensuite transportés en procession, comme ça, à travers la ville, avec une foule qui chante, qui tape des pieds, exactement, qui tape des mains. Stéphane, redescendez. Tout ça accompagné de vieux messieurs sages, en kimono, qui suivent les palanquins.
Vous parlez de Stéphane ?
Non, je me permettrai pas, quand même. Plus sérieusement, à l'origine, on dressait en fait des espèces de totems, des pierres dressées dans les campagnes japonaises pour invoquer les dieux au moment des plantations de riz. Et cette pierre, elle a progressivement, avec sa forme, été associée au sexe masculin. C'était en fait la fête des paysans, des forgerons aussi, d'où le phallus de fer, la statue de fer. Et sortir ces statues en forme de phallus du temple shintoïste, c'est promener la divinité autour de son territoire, là où elle peut agir. On la montre au peuple, réunit la statue, et on circonscrit la zone où cette divinité peut se fonctionner. Je savais que ça... Et c'est aussi pour montrer où cette statue doit asseoir son pouvoir et sa fertilité. C'est une façon de remercier aussi les dieux pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils vont faire. Alors, dans la religion shintoïste qui croit en la célébration des forces de la nature où habitent les esprits, les temples sont gérés de famille en famille. Et depuis 1970, le descendant en charge de ce temple a eu l'idée de remettre justement cette célébration qui avait lieu sous la dynastie Edo et qui avait été progressivement abandonnée avec le temps, voire même interdite dans une société très puritaine, notamment à l'ère Meiji au 19e et au 20e siècle.
Donc en quelque sorte, cette célébration marque une rupture au 20e et au 21e siècle avec une forme de pudibonderie. Mais est-ce qu'on peut dire que cette cérémonie a gardé le caractère solennel qu'elle avait il y a 4 siècles.
C'est là que le bât blesse, Stéphane. Cette cérémonie, elle est devenue, ces dernières années, une cérémonie beaucoup, beaucoup plus commerciale. Alors, c'est une sorte de parade où on achète des sucettes en forme de phallus pour faire des selfies sur les réseaux sociaux. Vous verrez, il y en a plein. Et je peux pas tout dire non plus parce qu'il y a plein d'autres choses assez... Bref, vous verrez. C'est un grand moment de folie. C'est sans tabou, ou presque. C'est pas une orgie non plus, soyons raisonnables. Mais c'est un moment intéressant, en fait, pour observer cette société japonaise qui est plutôt prude et plutôt réservée et qui là
se lâche.
J'ai quand même l'impression que Stéphane aimerait bien y aller. Seuls les Japonais peuvent y assister.
Non. Quasiment la moitié des participants de la procession sont étrangers. Ils viennent d'Asie du Sud-Est, des États-Unis aussi. C'est aussi devenu en fait un grand rendez-vous de la communauté gay pour communiquer, pour transmettre des messages, notamment sur les maladies sexuellement transmissibles. D'autant que le temple autrefois, j'ai trouvé ça, était essentiellement fréquenté par des prostituées venues y prier pour obtenir une protection contre les maladies vénériennes. Et là encore, dans ce pays en fait, où l'homosexualité est encore tabou, on peut dire que cette fête, vieille de plusieurs siècles, aide en fait à faire progresser les mentalités.
Eh bien, merci beaucoup Gavins pour cette découverte de la cérémonie du Kanamara Matsuri au Japon, à laquelle vous avez visiblement assisté.
Moi, j'ai vu des photos de lui là-bas.
Si vous passez par Kawasaki et que vous voyez des phallus géants se promener sur des palanquins, vous saurez maintenant pourquoi. Mes aïeux, quelle époque. Merci, Gavin.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Gavin Clemente Ruiz, et surtout avec vous, David Castel-Lopez, puisque vous nous racontez les origines de l'Ultra Trail.
Oui, on n'est pas tous égaux face au vieillissement. Quand je pense que je suis né la même année que Roger Federer, et la même année que Justin Timberlake, je suis né la même année que Zlatan, et quand je vois l'état ultra préservé dans lequel il se trouve, ça me fait de la peine. Parce que moi, non seulement j'ai le visage en ruine, mais j'ai le corps qui s'effrite. Depuis que j'ai 35 ans, donc il y a depuis 6 ans déjà, je ne peux plus courir parce que j'ai mal aux genoux quand je cours au bout de 5 minutes. Ça me fait de la peine, ça me fait beaucoup de peine. Et donc pour compenser, je vis la vigueur par procuration, en m'intéressant aux corps intacts qui ont encore le loisir de se surpasser pour se taper sur la gueule. Regardez mon historique Instagram, je regarde que des boxeurs qui se tapent alors que moi j'ai jamais tapé personne et je suis incapable de le faire. Se surpasser pour escalader des trucs et se surpasser surtout pour faire de l'ultra trail. L'ultra trail, c'est quoi? Je le dis un petit peu dans le sommaire. C'est la version ultra du trail. Et le trail, c'est quoi? C'est un mot anglais qui désigne le fait de mélanger la randonnée et la course à pied. C'est de la randonnée en courant. Alors, au niveau international, on parle d'ultra trail à partir du moment où la distance parcourue est de 100 km minimum. Et l'idée, bien sûr, c'est de parcourir ces kilomètres le plus vite possible. Ce sont, si vous voulez, des sortes de méga marathons sur terrain montagneux. L'une des courses les plus prestigieuses du monde, pour vous donner une idée, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui existe depuis 2003 et qui fait 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif, le tout à 2500 mètres d'altitude où il y a vachement moins d'oxygène. Moi, en 2 ans de chronique...
Moins de monde aussi.
Ben oui, il y a moins de monde. En 2 ans de chronique quotidienne européen, j'ai pris l'escalier 2 fois. Vous voyez, et j'en parle encore. Vous voyez,
donc c'est votre ultra trail à vous.
Voilà, c'est mon ultra trail à moi. Mais alors, depuis quand ça existe, cette façon originale de souffrir inutilement? Bon, courir sur de longues distances caillouteuses comme un taré, ça se fait sans doute depuis longtemps. Le monsieur, le mythe de marathon, par exemple, celui qui allait donner le message là pendant les guerres médiques, il a couru sur des cailloux, c'est un peu ça. Bon, c'est peut-être une légende, mais c'est comme ça.
Oui, mais il est mort à la fin.
Il est mort à la fin, en plus. Donc, il a perdu, en quelque sorte. Mais la version moderne de cette activité, qu'on appelle spécifiquement l'Ultra Trail, c'est beaucoup, beaucoup plus récent. C'est lié, si vous voulez, à 2 exploits successifs réalisés en 1955 et en 1974, au même endroit, aux États-Unis. En 1955 d'abord, il y a un businessman américain qui s'appelait Wendell Robie, qui a voulu prouver qu'il était possible de parcourir à cheval les 160 km qui séparent le Lake Tahoe en Californie, entre la Californie et le Nevada, et la ville de Auburn en Californie. Il voulait prouver que c'était possible de faire ça en moins de 30 heures. C'est un chemin super pentu, escarpé, on manque de se casser la gueule tout le temps. Et Wendell, il a dit, rien à battre, je vais le faire. Et il l'a fait. Et à partir de l'année suivante, il y a eu une course organisée de cheval qui existe toujours. Et puis, en 1974, il y a un autre monsieur américain qui a dit « Attention, on peut le faire à cheval, pourquoi on ne pourrait pas le faire à pied ?» Eh ben ouais, et il l'a fait aussi, et de la même façon, c'est devenu une course organisée, et c'est aujourd'hui encore considéré comme la première course d'ultra-trail de l'histoire. Alors, je ne sais pas si tout ça vous a donné envie. Mais j'imagine que non. Mais si c'est le cas, il faut faire attention parce que quelquefois l'ultra trail, c'est dangereux. En Chine, en 2021 par exemple, il y a 21 personnes qui sont mortes gelées dans une course d'ultra trail parce qu'ils s'étaient pas assez couverts. Mais pour vous Stéphane, pour vous spécifiquement, je pense que j'ai trouvé ce qu'il faut.
Ah oui, vraiment.
Ce qu'il faut si vous comptez vous mettre à l'ultra trail, ce qu'il vous faut, c'est la fameuse course des Highlands Kings Ultra, qui est une course de 193 km en Écosse, où certes, on court comme des tarés, ça on connaît, mais le soir, dans cette course, vous avez un service d'hôtel 5 étoiles de malade qui vous prépare des repas gastronomiques et qui monte pour vous des saunas portatifs de luxe pour que vous puissiez vous délasser. Et leur slogan, c'est un slogan délicieux. Et ce slogan, c'est « Race like a warrior, but recover like a king ». Courez comme un guerrier, mais récupérez comme un roi. Bon, ça coûte 17 000 euros par personne de faire ça. Mais je vous dis, si vous les avez, courez au Highlands Kings Ultra. Faut savoir ce qu'on veut, si vous voulez. Alors, ces dernières années, les courses de l'extrême dont l'Ultra Trail fait partie, elles ont explosé, mais leur race. Depuis 2010, le nombre de participants à ces courses, il a été multiplié par 3,5. Et, truc un petit peu rigolo, les Français, ce sont ceux qui kiffent le plus. La France, c'est le pays qui compte le plus de participants à l'Ultra Trail. Mais depuis quelque temps, le sport, il est un petit peu devenu victime de son succès. Parce qu'il y a, par exemple, beaucoup plus de gens qui veulent faire l'Ultra Trail du Mont Blanc que de places disponibles. Résultat, non seulement il faut se préparer comme un taré pour le faire, mais en plus, vous êtes tiré au sort.
Ah oui.
Et vous avez beaucoup de chances, il y a de grandes chances que vous puissiez pas le faire. Comme quoi, vous voyez, souffrir, ça se mérite.
Oui. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr, où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont fait parler Freud. La dernière des Bonaparte, Marie Bonaparte, qui a été l'interprète de la parole de Sigmund Freud en France, et Albert Einstein, qui a lui aussi fait parler Freud dans un échange resté célèbre. Pourquoi la guerre ? Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un acteur qui s'est glissé dans la peau de Freud.
Oui, c'était pas évident parce qu'il est grand et fort. Je vous raconte Viggo Mortensen qui a joué Freud au cinéma.
À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.